l'extérieur de l'hôpital public. Dans le secteur des soins privés à but lucratif, cette évolution est encore plus marquée et cynique. Cliniques et EHPAD privés, laboratoires d'analyse médicale, aujourd'hui centres de radiologie. La mainmise capitaliste y a connu un développement sans précédent dans les 20 dernières années avec le soutien actif de l'État. La concurrence y a mené à la financiarisation et à une concentration extrêmement rapide, avec des géants comme Ramsay ou Elsan dans l'hospitalisation, Corian ou Orpea dans les EHPAD et d'autres. Ces secteurs pourtant vitaux sont devenus des jouets pour la spéculation financière. Jusqu'à la fin des années 70, les cliniques privées étaient surtout détenues par un ou plusieurs médecins. Les premiers groupes sont nés dans les années 80. La Générale de Santé, créée par la Compagnie Générale des Eaux, ancêtre de Veolia, ou Fininvest Capio, ont commencé à racheter plusieurs cliniques. Ils ont été encouragés par les gouvernements au nom de leur fameux dogme qui dit que le public, ça coûte cher et que le privé, c'est efficace. En 2009, la loi Hôpital-Patient-Santé-Territoire ou loi Bachelot, du nom de la ministre de la Santé de Sarkozy, a généralisé la tarification à l'acte, T2A, lancée en 2004, permettant aux cliniques de choisir les soins les plus rémunérateurs. Elle a créé aussi les agences régionales de santé, ARS, de véritables préfectures de la santé, avec un directeur nommé par le gouvernement. Les ARS sont chargés de rationaliser l'offre de soins à l'échelle d'un territoire, en mettant en concurrence les établissements publics et privés et en répartissant les soins indifféremment entre eux. Résultat, les établissements privés ont vu leur activité augmenter plus vite que le public, en se concentrant sur les opérations les plus rentables, celles qui peuvent être programmées à durée stable, ou les actes chirurgicaux qui peuvent être pratiqués à la chaîne. Aujourd'hui, leur part de marché dépasse les 53% en chirurgie, avec même 70% des cataractes ou 71% des endoscopies digestives diagnostiques. Les pathologies les plus lourdes et les patients les plus pauvres restent bien sûr à la charge de l'hôpital public. Ce secteur en plein boom a alors attiré des capitaux en recherche de placements rentables. Les principaux acteurs en sont les fonds dits de private equity ou capital investissement. Pour l'essentiel, il ne s'agit pas d'investir au sens de créer des moyens de production nouveaux, mais au sens d'investir des capitaux dans une affaire pour les retirer quelques années plus tard avec un gain financier. Par opposition aux hedge funds qui spéculent à très court terme, les fonds de private equity spéculent eux aussi, mais sur 5 à 10 ans. Ils achètent des entreprises non cotées en bourse, rentabilisent, restructurent, font des acquisitions financées par l'endettement et ils revendent plus cher quelques années plus tard. En France, comme dans tous les pays impérialistes, les grandes entreprises ainsi que de grandes familles bourgeoises ont créé leurs fonds d'investissement pour placer leurs capitaux excédentaires. C'est le cas pour AXA, BNP Paribas, les banques Lazard et Rothschild ou les héritiers des rois de la sidérurgie de Wendel avec Wendel Group. La richissime famille Bettencourt a elle aussi son fonds d'investissement, nommé poétiquement Thétis Invest, du nom d'une déesse grecque de la fécondité. C'est sûr, ils attendent que leurs milliards fassent des petits. Le poids de ces fonds de private equity, contrôlés par la bourgeoisie des pays riches, a explosé depuis la crise financière de 2008, lorsque les banques ont été un peu plus encadrées par les États, alors que ces fonds, eux, le sont très peu. Les opérations spéculatives de ces fonds ont provoqué un vaste mouvement de concentration dans le secteur des cliniques privées. Si en 2003, les grands groupes ne représentaient encore que 10 à 15% du marché, les quatre principaux se partagent aujourd'hui 40% du secteur. Ramsay Santé, numéro 1 en France, est aux mains de l'Australien Ramsay Healthcare et du Crédit Agricole. Il est dirigé par une figure de la finance, Patrick Rocher, ex-haut dirigeant chez AXA et dans des filiales de la banque Barclays. Selon les chiffres officiels, qui valent ce qu'ils valent, les bénéfices de l'ensemble des cliniques privées se sont montés en 2022 à 627 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de plus de 18 milliards. La rentabilité peut paraître modeste par rapport à d'autres secteurs de l'économie, sauf que cet argent se fait quand même sur le dos des malades et de la sécu et sur les travailleurs de la santé. Mais le secteur de la santé est surtout un support pour des spéculateurs des fonds d'investissement qui ne cherchent pas forcément à s'enrichir en touchant des dividendes, mais font du profit en achetant et en revendant plus cher. Alors pour le comprendre, on va s'intéresser à la saga du numéro 2 en France, le groupe Elsan. Donc attention, il y a pas mal d'épisodes, il faut un petit peu s'accrocher. Alors Elsan est le résultat de la fusion de trois groupes principaux, dont chacun avait déjà été le produit de plusieurs fusions juteuses. Vedici, Vitalia et Medipol partenaires. Vedici a été créé en 2000 par deux anciens cadres de la Générale de Santé qui ont racheté quelques cliniques en difficulté, essentiellement dans l'ouest de la France, et ont commencé à regrouper, externaliser, sabrer dans les effectifs et vendre les murs. En 2006, leur succès a attiré un premier fonds d'investissement, le britannique Apax Partners. Il a acheté une partie de l'entreprise avec ce que les financiers appellent dans leur jargon un LBO. Cela signifie qu'il n'a pas payé la totalité de l'achat avec son propre argent. Il a fait un crédit pour financer une partie de l'acquisition en prévoyant de payer les intérêts de ce crédit grâce aux bénéfices tirés des cliniques achetées. Les deux fondateurs de Vedici ont ainsi levé des capitaux avec lesquels ils ont financé de nouveaux achats qui ont augmenté la valeur de l'entreprise. En 2010, après 4 ans, Apax a revendu ses parts du capital de Vedici plus cher à un autre fonds d'investissement qui a acheté lui aussi en empruntant. Pour satisfaire l'appétit de profit de ses nouveaux actionnaires, Vedici a mené la même guerre contre les travailleurs et les conditions de soins que dans le public. Fusion de cliniques, fermeture de lits, suppression d'emplois soi-disant en doublon, vente des murs à des sociétés immobilières, salaires encore plus bas que dans le public, travailleurs sous pression, matériel rationné, prestations supplémentaires facturées, chambres pouvant aller jusqu'à 200 euros la nuit. Au bout de 4 années supplémentaires, en 2014, le deuxième fonds revend en ayant doublé son investissement initial. Un joli coup dans le monde du private equity. Un troisième fonds rachète à son tour les parts de Vedici, finançant cet achat, comme ses prédécesseurs, par un emprunt, dont les intérêts seront payés par les cliniques du groupe. Pour la troisième fois, c'est le groupe racheté qui finance son propre rachat. Avec cet argent frais, Vedici a réussi à racheter en quelques années deux concurrents plus gros que lui, dont Vitalia, puis Medipol Partenaires. Le groupe prend le nom de Elsan. Depuis 2020, après la dernière grosse opération financière en date, Elsan est contrôlé par le fonds américain KKR, un fonds luxembourgeois et plusieurs fonds français, dont Tétis Invest de la famille Bettencourt ou celui de la famille Mérieux. À sa tête, il y a Sébastien Proto, un ex-jeune loup de la droite proche de Sarkozy et ex-banquier d'affaires chez Rothschild et à la Société Générale. Dans leur course au profit, ces capitalistes ne reculent devant aucune crapulerie. Le patron d'Elsan de 2017 à 2023, Thierry Chiche, était un ancien de Renault et Michelin. Exactement comme Michelin jette 1300 travailleurs dehors en ce moment, Thierry Chiche a menacé de fermeture une clinique entière à Auch sous prétexte de manque de rentabilité, menaçant 80 travailleurs de licenciement et toute une population d'être privée de spécialités indispensables. Le comble, c'est qu'une des causes du prétendu manque de rentabilité, c'était le loyer exorbitant exigé par le promoteur immobilier à qui Elsan venait de vendre les murs. Donc Elsan avait encaissé le produit de la vente des meubles et ensuite voulait mettre la clé sous la porte. Bon, finalement, il y a un repreneur local qui a été trouvé. Alors, on a détaillé un peu l'histoire d'Elsan, mais les quatre mastodontes de l'hospitalisation privée ont des histoires similaires. Ramsay, Vivalto, Almaviva sont aussi les produits d'une concentration rapide pour le plus grand profit de bourgeois spéculateurs à la recherche de profits à court terme. Cette évolution s'est faite main dans la main avec l'appareil d'État et la Sécu, dont les responsables font là aussi allègrement des allers-retours du privé au public. Un exemple parmi d'autres. Frédéric Van Reukeghem, venu du groupe d'assurance AXA, est passé par le cabinet du ministre de droite, Guy de Blasi, a été directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie de 2004 à 2014 et préside actuellement le conseil de surveillance du groupe Elsan. Si le marché de la santé est considéré comme prometteur, c'est que ses débouchés sont garantis par l'agent de la Sécu et le soutien de l'État. Régulièrement, la Fédération hospitalière privée, une sorte de MEDEF des patrons de cliniques privées, utilisent la place cruciale qu'ils ont conquis dans le système de soins comme moyen de chantage pour leur faire débourser plus. Ils ont d'ailleurs obtenu des rallonges budgétaires en juin dernier en menaçant de fermer boutique, ce qu'ils appellent abusivement faire grève. Mais ils se gardent bien de faire la transparence totale sur leur compte. Quand ils pleurent en parlant de cliniques en difficulté, combien le font à cause des loyers exorbitants versés à un promoteur immobilier? Quels montants ont été dégagés pour payer les intérêts des prêts utilisés pour les racheter? Quels montants sont allés grossir les profits des rapaces de la finance, des Bettencourt et autres crédits agricoles? Dans ce secteur vital pour la population, comme dans l'ensemble de l'économie, il faudrait mettre fin à l'opacité qui sert à masquer les bonnes affaires de la bourgeoisie. Le secteur des EHPAD, en plein boom depuis 20 ans grâce au vieillissement de la population, a connu le même processus avec le soutien de l'État et via des fonds d'investissement. En 2022, le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, a révélé aux yeux du grand public ce que les travailleurs du secteur dénonçaient depuis des années par leur mobilisation. Les dernières années de la vie ne sont pas à l'abri de la loi du profit. Dans la jungle capitaliste, chaque famille doit se débrouiller pour prendre soin de ses anciens, ce qui n'est pas toujours possible, surtout quand il y a des problèmes de santé importants. Dans cette société où tout s'achète et se vend, c'est devenu un marché qu'ils osent appeler l'or gris. L'un des sires des fonds d'investissement et dirigeants d'Orpea a exprimé fièrement ce que ses maîtres capitalistes attendaient de lui. Au début de ma carrière, j'ai vendu des baskets chez GoSport. Eh bien, gérer des personnes âgées en maison de retraite, c'est exactement comme vendre des baskets. Mon but à l'époque, c'était de vendre le maximum de baskets. Et aujourd'hui, c'est qu'on vende le maximum de journées de prise en charge. Ce qu'il appelle vendre, c'est puiser dans les fonds publics. Si le résident paye la partie hébergement avec sa retraite ou en vendant sa maison, c'est la Sécu qui prend en charge à 100% la partie soins, c'est-à-dire les salaires des soignants. Et les départements et la Sécu qui prennent en charge l'essentiel de la partie dépendance, c'est-à-dire les salaires des auxiliaires de vie et agents de service. Dans les EHPAD, les méthodes de rationalisation sont dignes de la mafia. Rationnement des protections hygiéniques et de la nourriture. Fraude à la Sécu en facturant des achats sans tenir compte des ristournes reversées par leurs fournisseurs a posteriori. Optimisation du codage des soins. Commission sur le moindre coiffeur ou kiné qui intervient. Pour remplir les lits, admission d'anciens avec des pathologies psychiatriques sans leur fournir les soins adaptés. Sous-effectifs organisés et même mensonges sur les effectifs pour racketter la Sécu ou les départements. Travailleurs sous-payés et pressés comme des citrons, licenciements à la moindre contestation, chasse aux syndicalistes. Bref, ce sont des patrons de combat. Pour les travailleurs et les résidents, les EHPAD peuvent se transformer en enfer. Une aide-soignante citée par Mediapart raconte « Parfois, ce boulot, c'est presque de la torture. » Une de ses collègues « 10 minutes pour une toilette, quand il en faudrait au moins le double. On ne peut pas faire dans la dentelle. » Une militante CGT renchérie « Comment donner à manger en 10 minutes? Comment prendre le temps de pouvoir discuter avec le résident ?» La maltraitance du soignant se répercute sur la maltraitance du résident. Après toute une vie de labeur pour enrichir les capitalistes, voilà ce que la société a proposé aux anciens travailleurs devenus dépendants. Après le scandale, le groupe Orpea a frôlé la faillite. Mais l'État a volé à son secours via la Caisse des dépôts et consignations. Le journal Les Échos pouvait titrer en avril dernier « Emeis, ex-Orpea, remonte nettement la pente ». La course à la rentabilité est la même dans tous les groupes privés. Faisant face à de nombreuses contestations par des salariés ou des familles de résidents, l'autre géant du secteur, Korian, a lui aussi courageusement changé de nom pour se présenter sous la douce appellation de Clarian. Les groupes français, Orpea, Korian et Domus Vie, étendent leurs tentacules dans toute l'Europe, où ils sont les leaders de ce marché lucratif biberonné aux fonds publics. L'ensemble du système n'est pas conçu pour fournir une résidence agréable ou les soins nécessaires aux plus anciens, mais pour arrondir les fortunes de bourgeois en chair et en os. Derrière la sordide réalité des EHPAD, il y a Yves Journel, 54e fortune de France, grâce au groupe Domus Vie, ou Patrick Téchenet, avec le groupe Colisée. Au capital d'Orpea, il y avait la famille Peugeot, via sa filiale Peugeot Invest. Et bien d'autres bourgeois du monde entier se cachent derrière l'anonymat des fonds d'investissement. Par les méthodes de la finance, c'est toute la classe bourgeoise, collectivement, qui extorque le maximum de richesses sur le dos des anciens et des travailleurs. La finance s'immisce partout. Partout, elle capte ses marchés garantis par la Sécu. Partout, elle pousse à rentabiliser et concentrer. Les chaînes de cliniques ophtalmologiques ou les cliniques dentaires privées avec travail à la chaîne foisonnent. Certaines ont d'ailleurs été sanctionnées par la Sécu pour des arnaques de facturation. Les prochaines cibles affichées des financiers semblent être les centres de soins de proximité, la radiologie, les pharmacies ou les aides à domicile. L'arrivée du grand capital soumet et détruit les petits indépendants, les expropie et concentre la propriété entre quelques mains. Même les médecins, y compris les chefs de service, sont de plus en plus évincés des décisions. En 10 ans, les petits laboratoires indépendants d'analyse médicale ont quasiment disparu, au profit de 6 groupes qui contrôlent près des 2/3 des sites. Biogroup, Cerba, Eurofine, Innovi, Synlab et Unilab. Les plus grandes banques et fonds d'investissement sont à la manœuvre dans ce secteur. Là encore, c'est l'État qui a favorisé cette concentration. Avant, seuls les biologistes exerçant sur place pouvaient détenir un laboratoire. En 2001, dans l'objectif de baisser les tarifs des analyses, l'État a autorisé la formation de chaînes de laboratoires. En 2010, une nouvelle loi a imposé aux labos un procédé d'accréditation de leurs analyses, très lourd et très coûteux, qui a avantagé les grosses structures. Cette politique de l'État a acculé les petits labos, incapables d'investir dans les machines les plus modernes. Soit ils se sont regroupés en réseau, soit ils ont été absorbés par les grands groupes. Le rouleau compresseur du capitalisme continue à ruiner et exproprier la petite bourgeoisie. Pour rentabiliser et revendre plus cher, les fonds d'investissement rachètent des labos, accélèrent le travail, regroupent parfois plusieurs centaines de sites autour d'un seul plateau technique automatisé, rassemblant des équipements extrêmement coûteux. Les conséquences pour les salariés, ce sont les salaires bloqués et les rythmes éreintants, comme ils le dénoncent régulièrement dans leur lutte. Cette concentration a accentué la division des tâches et amélioré l'efficacité, comme cela s'est fait d'ailleurs en parallèle dans l'hôpital public avec le regroupement des laboratoires. Mais la concurrence a mené à la formation de monopoles qui sont en position de force pour s'imposer face à l'État. Comme s'en inquiétait même en 2023 le directeur de l'assurance maladie. Je le cite. Quand l'assurance maladie a voulu baisser les tarifs des biologistes, le fait que les laboratoires soient aujourd'hui détenus par des fonds d'investissement avec des logiques claires de spéculation a rendu les discussions très compliquées, avec des menaces de fermeture de sites, par exemple, et de remise en cause du service rendu aux assurés. Fin de citation. Donc l'État et la Sécu se retrouvent dans la position de l'apprenti sorcier qui a déclenché des forces qui lui échappent. Après les cliniques, les EHPAD, les labos, maintenant les laboratoires de radiologie, les masses de capitaux à la recherche de placements financiers transforment tous les secteurs. Tant que ça se développe, tant qu'ils peuvent espérer revendre avec des gains énormes, les valeurs montent. Mais jusqu'à quand? Dans le secteur des EHPAD, affaibli par les scandales, il a fallu le sauvetage de l'État pour que le groupe Orpea puisse poursuivre son activité. Dans le secteur de l'hospitalisation privée, le dirigeant du groupe Vivalto Santé s'est plaint auprès d'une commission du Sénat du ralentissement de la croissance, qui le rend, je le cite, incapable d'organiser une sortie de ses investisseurs et d'en trouver de nouveaux. Donc apparemment, il n'arrive plus à dégager suffisamment de gains rapides pour attirer les acheteurs au niveau de prix qu'il attend. Dans le secteur des laboratoires d'analyse, les taux de rentabilité sont aujourd'hui sidérants. Ils ont dépassé les 30% en 2021, mais ça ne pourra pas durer. L'assurance maladie constate que les valeurs d'achat des groupes ont atteint des niveaux qui semblent décorrélés de leur performance financière et elle s'inquiète des risques de bulles spéculatives. Tout ce secteur est à la merci d'un effondrement financier. La concentration et la constitution de monopoles, qui pourraient représenter un progrès en renforçant l'efficacité, en permettant de planifier mieux le système de santé, se transforment en bombes à retardement, parce qu'ils sont entre les mains de spéculateurs irresponsables. Mais une autre conséquence de cette évolution, c'est la concentration des travailleurs de la santé dans des établissements de plus en plus grands. Qu'ils soient dans le public ou dans le privé, dans un hôpital, un EHPAD ou un labo, ils sont toujours plus intégrés dans la vaste chaîne d'exploités asservie par le capital. En lien avec le reste de la classe ouvrière, ils représentent une force potentielle considérable. Côté patient, le système de santé est à l'image de l'ensemble de cette société de classe. Quand on a de l'argent, tout roule. Mais sinon, rien dans la société n'est organisé pour permettre aux femmes et aux hommes des classes populaires de profiter de la vie dans de bonnes conditions. Les travailleurs sont là pour se faire exploiter. Et le système de santé se contente de les réparer comme des machines cassées pour qu'elles remplissent à peu près leurs fonctions. Leur santé est détruite en permanence par l'exploitation. Accidents du travail, exposition à l'amiante ou aux produits chimiques, horaires décalés, gestes répétitifs ou port de charges lourdes. Les difficultés pour accéder à une alimentation équilibrée provoquent une épidémie à l'échelle mondiale d'obésité et de diabète. Entre dépassement d'honoraires et franchises médicales, le coût de la santé ne cesse d'augmenter. Quand on ne connaît pas les arcanes du système, ou quand on n'a pas les moyens de se payer une bonne mutuelle, on fait souvent face à un mur. Avec un bébé malade en pleine nuit, les parents qui n'ont pas les moyens d'avancer les 20 euros non pris en charge par la Sécu pour le médecin de garde passent toute la nuit aux urgences. Et encore maintenant, même là, si on n'a pas de mutuelle, il reste près de 20 euros à payer. Faute d'un système totalement gratuit, il faut parfois choisir entre remplir le frigo, se chauffer ou se soigner correctement. L'accès à un simple médecin traitant est devenu compliqué, car les médecins surchargés ne prennent pas de nouveaux patients, et il arrive que certains refusent les patients les plus pauvres, couverts par la complémentaire santé solidaire, l'ex-CMU. D'autres médecins se déconventionnent pour augmenter leurs tarifs. faute d'un système proche des gens, les plus pauvres sont moins bien suivis et ont moins accès à la prévention. Leurs maladies sont détectées plus tard, parfois seulement lors de la visite médicale obligatoire au travail. Certains traînent des maladies qui pourraient être guéries ou même évitées, qui leur pourrissent la vie, comme des maux de dos non soignés et aggravés par le travail, qui finissent par se transformer en handicap irréversible. Des soins vitaux, comme les yeux ou les dents, mal remboursés par la Sécu, sont souvent inaccessibles. Lorsque François Hollande parlait des sans-dents, il a exprimé, avec tout le mépris d'un domestique servi de la bourgeoisie, que dans un pays riche comme la France, on peut presque connaître la classe sociale de quelqu'un en regardant ses dents. Avec des factures pouvant se monter à plusieurs milliers d'euros pour des prothèses, beaucoup renoncent, vivent avec des dents en moins et des douleurs permanentes à la mastication. Pour les rapaces qui sont à la manœuvre dans la santé, tout cela n'existe pas. Leur mainmise, leur course à la rentabilité à court terme ont enfanté un système de santé de plus en plus inhumain et inaccessible. Les aspects les plus hideux de leur course au profit ressortent d'autant plus qu'il s'agit d'un domaine où on s'occupe de l'humain, d'un domaine auquel chacun sera confronté un jour. Pourtant, avec les connaissances et les moyens d'aujourd'hui, la société est riche de possibilités comme jamais l'humanité n'en a disposé. Seuls les travailleurs au pouvoir pourraient construire un système de santé qui permette de répondre aux besoins de tous. Après la Révolution russe de 1917, le pouvoir des conseils d'ouvriers et de paysans avait eu cet objectif. Malgré les immenses difficultés des premières années, ils avaient cherché à développer un système de santé pensé complètement autrement. Ils avaient la volonté, d'une part, de réfléchir et d'agir sur les causes des maladies, l'insalubrité, la pauvreté, la mauvaise alimentation, l'exploitation, et d'autre part, d'impliquer la population elle-même pour développer la prévention en faisant comprendre les causes des maladies. Ils ont montré, dans un pays privé de tout, soumis au blocus, sans même une usine de médicaments, qu'un autre système de santé serait possible, aux antipodes de la médecine verticale, impersonnelle et industrialisée. Malgré la dégénérescence stalinienne qui a suivi, l'impulsion donnée par la période révolutionnaire permit à l'URSS d'avoir pendant longtemps un système de santé meilleur pour les classes populaires que dans les pays capitalistes. Plus de 100 ans après la Révolution russe, le capitalisme, même dans les pays impérialistes, est de moins en moins capable d'assurer un système de soins un tant soit peu correct et humain. Dans le pays le plus riche du monde, les États-Unis, l'espérance de vie recule même depuis 10 ans, ça veut tout dire. Et que dire des pays que les puissances impérialistes ont colonisés, soumis, pillés et condamnés au sous-développement? Des millions d'enfants meurent chaque année de maladies pour lesquelles vaccins et traitements existent, sans que cela n'empêche les actionnaires des Sanofi, Merieux ou Ramsay de continuer à jouer avec leurs milliards à la bourse. Dans la crise sans fin du monde capitaliste, les ressources économiques et les technologies les plus modernes sont détournées pour produire des engins de guerre les plus sophistiqués. Car le chaos grandit au Moyen-Orient, en Afrique. Les rivalités entre les puissances impérialistes qui dominent la planète font planer le risque que les guerres se généralisent. En France, il y a d'ailleurs un secteur des hôpitaux où les budgets ont augmenté depuis 2017, c'est dans l'armée. En 2021, lors des exercices militaires de préparation à des combats de haute intensité, l'état-major a constaté, je le cite, que le service de santé des armées est dans l'incapacité, aussi bien sur le plan humain que matériel, de soutenir l'hypothèse d'engagement majeur. Il faut dire qu'ils s'attendent à pas moins de 1100 blessés par jour en plus des morts. Alors, après plusieurs années de restrictions, cette hausse de budget pour la santé militaire s'inscrit dans le contexte plus général de préparation économique et morale à la guerre. S'il s'agit de soigner des soldats pour les renvoyer mourir pour les intérêts des industriels et des banquiers, là l'État s'intéresse à la santé des prolétaires. Dans cette société folle, les guerres ont d'ailleurs été des périodes d'accélération des progrès médicaux. Dans cet engrenage vers la guerre et la barbarie, Il n'y a pas de place pour un système de santé qui fasse profiter toute l'humanité des vastes progrès médicaux accomplis. Le combat pour une santé humaine et accessible à tous les habitants de la planète n'est pas uniquement le combat des travailleurs de la santé. Il s'inscrit dans le combat de l'ensemble de la classe ouvrière pour arracher le pouvoir à la bourgeoisie et renverser ce système. Les immenses possibilités développées par le travail collectif étouffent dans le cadre de la propriété privée de la loi du marché capitaliste. On a des robots capables d'assister des chirurgiens pour des opérations délicates. On fait greffer des mains et même un visage. On fabrique des prothèses qui permettent de rivaliser avec les meilleurs champions olympiques. On développe des intelligences artificielles pour aider au diagnostic. Les chercheurs et leurs équipes ont été capables, malgré la concurrence et la désorganisation de l'économie capitaliste, de trouver rapidement des vaccins contre le Covid. Aujourd'hui, des plateaux techniques ultra-modernes ou du matériel dernier cri sont parfois inutilisés, faute de personnel. Dans une société débarrassée du capitalisme, nous serons capables de bien d'autres prouesses. En regroupant et en concentrant le système de soins, l'évolution capitaliste elle-même a préparé le passage à une économie planifiée en fonction des besoins. La modernisation, en économisant du temps de travail, pourrait permettre de dégager du temps à consacrer aux patients si elle n'était pas utilisée pour optimiser le profit. Même les trois outils de comptabilité à la base de la tarification à l'acte dans les hôpitaux pourraient permettre de recenser les besoins et de planifier s'ils étaient utilisés dans l'intérêt de la population. On a des outils perfectionnés, mais une organisation sociale obsolète. La préoccupation de prendre soin des vieux et des malades est un marqueur très ancien dans l'histoire de l'humanité. Bien avant même qu'existe notre espèce Homo sapiens, on trouve la trace de soins apportés par le groupe à un individu blessé ou malade qui n'aurait pas pu survivre tout seul. Cette sensibilité, cette volonté d'accompagner et de respecter chacun de ses membres, y compris s'il est vieux ou handicapé, ont émergé avec le fonctionnement collectif de nos sociétés préhistoriques, qui a permis aux humains de survivre et de progresser. Avec le développement du capitalisme, d'anciennes formes de solidarité naturelle vis-à-vis des anciens et des malades ont été détruites, pour les remplacer par une société qui promeut l'individualisme. La famille actuelle, étroite, qui est bien souvent une unité économique rongée par les problèmes d'argent, n'apporte pas de solution. Quel vrai choix existe-t-il aujourd'hui pour quelqu'un qui souhaite s'occuper de ses vieux parents dépendants, mais qui a un logement trop petit ou des horaires de travail épuisants? La gestion capitaliste de la santé a déshumanisé le soin. Elle fait la chasse aux sentiments et empêche les soignants de consacrer le temps nécessaire à chacun. Les travailleurs au pouvoir, en expropriant la bourgeoisie, en réorganisant toute l'économie, pourront mettre les progrès matériels au service de tous. Ils inventeront bien d'autres formes de relations sociales, bien d'autres modes de vie, avec des relations humaines bien plus riches que ce que nous pouvons imaginer. En s'appuyant sur l'implication de l'ensemble de la population, les travailleurs pourraient mettre en place une santé qui ne serait plus affaire de spécialistes lointains, mais mieux intégrée dans la vie quotidienne, avec des centres de proximité, plus de prévention et une meilleure éducation sanitaire pour tous. Le vieillage pourrait être pris en charge collectivement dans des structures proches des lieux de vie. Dans une société communiste, les générations futures, débarrassées de la nécessité de résister à l'exploitation au quotidien, auront du temps pour se creuser la cervelle, pour inventer et pour mettre le meilleur de ce que l'humanité a produit au service de tous, quel que soit son état de santé et son âge.